Radio France Internationale, il est 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal de Martin Guez à la une, PAC sous tension en Ukraine où la trêve semble bien précaire.
Et les alertes antiaériennes qui ont retenti à Kiev malgré ce cessez-le-feu décrété de façon unilatérale par la Russie hier soir. Un cessez-le-feu d'une durée de 30 heures qui n'était pas respecté hier selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Qu'en est-il ce matin? On pose la question dans un instant à notre correspondante Emmanuel Chaz.
Au Proche-Orient, pas de trêve à Gaza, lourdement bombardée.
Au moins 54 morts ce samedi et le bilan pourrait s'alourdir selon la défense civile gazaoui. Nous serons aussi au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, dans le village alaouite de Rajar. Reportage à suivre d'Abla Jonaïdi. En RDC, le retour annoncé de l'ancien président Joseph Kabila à Goma suscite beaucoup de questions, mais peu de réactions dans l'attente d'une prise de parole de l'ex-chef d'État. Enfin à Rome, le pape François ne présidera pas la messe pascale, mais pourrait tout de même apparaître pour saluer les fidèles place Saint-Pierre.
À peine annoncé, déjà dénoncé, la trêve de Pâques est bafouée en Ukraine.
Un cessez-le-feu décrété de façon unilatérale hier par Moscou à 18h heure locale, et ce pour une durée de 30 heures jusqu'à minuit ce soir. Mais déjà, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de violation. Le gouverneur de la région de Kherson fait part d'attaques de drones et une alerte anti-aérienne a retenti hier à Kiev. Kiev, on retrouve notre correspondante Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Est-ce que cette trêve est bien entrée en vigueur? Comment s'est passée la nuit sur le terrain en Ukraine?
Alors écoutez, cette annonce dans un premier temps avait été accueillie avec beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance côté ukrainien et puis du côté des soldats. Finalement, une nuit après l'entrée théorique en vigueur de cette trêve, on n'entend toujours pas ce silence qui signifierait que cette trêve est effectivement entrée en vigueur et Kiev a averti qu'elle a déjà été violée plusieurs fois, mais que l'Ukraine respecterait ce cessez-le-feu bien temporaire et que l'Ukraine agirait aussi en miroir des actions de Moscou. Mais il semble que les drones russes aient continué à voler dans le ciel ukrainien, notamment la nuit dernière, dans les régions de Kherson et de Zaporijia, et que ni les assauts ni l'artillerie ne se sont tus sur le front, selon Volodymyr Zelensky, qui affirme aussi que cette trêve n'est pas en vigueur dans les territoires russes où se déroulent des opérations, donc les régions frontalières de Koursk et de Belgorod, et il répète que l'Ukraine est toujours ouverte à un cessez-le-feu plus long, celui de 30 jours, qui avait été proposé par Washington le 11 mars, et auquel Kiev accepte de se tenir, à condition que la Russie fasse de même, ce que Moscou a jusqu'à présent refusé.
Une trêve longtemps, Emmanuel, très précaire donc entre la Russie et l'Ukraine, une trêve qui a tout de même permis un large échange de prisonniers entre les deux pays.
Oui, sur le volet humanitaire, l'Ukraine a confirmé le retour de 277 de ses soldats lors de deux échanges de prisonniers hier grâce à la médiation des Émirats Arabes Unis. Il s'agit du 63e échange de ce genre qui amène à plus de 4500 le nombre de prisonniers ukrainiens de retour auprès des leurs. Et c'est l'un des plus grands échanges de la sorte alors que Kiev continue de réclamer un échange tous pour tous, donc le retour de tous ces soldats ukrainiens prisonniers en Russie en échange des soldats russes détenus en Ukraine.
Merci beaucoup Emmanuel Chaz en direct de la capitale ukrainienne sur RFI.
Côté russe, cette trêve est aussi un coup de com'.
Et c'est l'analyse qu'en fait le général Jérôme Pellistrandi. Une main tendue vers les États-Unis, alors que le président américain Donald Trump s'est dit agacé de l'enlisement des négociations de paix. Une annonce donc très symbolique de Vladimir Poutine qui se donne le beau rôle, selon Jérôme Pellistrandi, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
Il faut souligner que pour Vladimir Poutine, il y a eu le précédent du dimanche dernier avec les rameaux, où la frappe sur Soumy a fait de très nombreuses victimes, au moins 35 morts et plus d'une centaine de blessés. Et donc cette frappe, le dimanche des rameaux, a beaucoup interpellé, d'autant plus, comme vous l'avez souligné, que cette année, la Pâque catholique et la Pâque orthodoxe tombent au même moment. Et donc il y a une dimension très symbolique autour de cette fête religieuse qui est majeure pour les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Et puis il y a aussi le fait que, on le voit bien par ailleurs, que les discussions avec les États-Unis sont compliquées. Et donc en quelque sorte, Vladimir Poutine donne un gage de bonne volonté. Tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et pour Vladimir Poutine, c'est en quelque sorte se donner le beau rôle au moindre coût. Et donc ça permet en quelque sorte pour lui de se présenter comme quelqu'un de raisonnable.
Des propos recueillis par Daniel Vallot du service international de RFI.
Des fêtes de Pâques très particulières aussi en Israël.
Notamment à Jérusalem, autour de l'église du Saint-Sépulcre, où une flamme a été allumée, symbolisant la résurrection du Christ, cérémonie marquée par un dispositif sécuritaire très renforcé. Alors qu'à Gaza, la guerre se poursuit. La défense civile palestinienne qui dresse un bilan terrible de 54 morts ce samedi, lors de raids de l'armée de l'État hébreu. Israël qui occupe aussi le plateau du Golan, au nord de son territoire, où se trouve le petit village de Rajar, localité alaouite, à la frontière avec le Liban. Pendant 22 ans, Rajar était une zone militaire, impossible d'y accéder pour les visiteurs étrangers. Les habitants qui sont devenus israéliens dans les années 80 et aujourd'hui, ils revendiquent le droit à vivre en paix. Reportage de notre envoyé spécial Abla Junaidi.
À Rajar, les habitants se saluent en montrant la paume de la main, signe de paix. Effie, touriste originaire de Haïfa, la grande ville du Nord, y est sensible.
On est venu voir l'endroit, les gens, leur culture. On est en Israël, c'est calme. Juste derrière la rivière Asbani, c'est le Liban.
Avant qu'Israël ne le prenne pour de bon en 2006, le nord du village avait été dévolu au Liban par l'ONU. Pile sur la ligne bleue, Ahmed tient une boutique de pâtisserie.
Ici, c'est le point qui sépare Israël et le Liban. Nous, les villageois, on s'est opposés à la partition. Personnellement, moi, je me sens israélien. Parce que je ne suis pas né en Syrie. Mon père et mon grand-père sont nés en Israël.
Même avant la guerre lancée en octobre 2023, le Hezbollah n'a eu de cesse de tenter de réinvestir la zone. Mais pour le jeune Yahya, la fidélité à Israël ne se discute pas.
On ne mord pas la main qui nous nourrit. Ici, pendant la dernière guerre, on avait de l'électricité en permanence. Mon deuxième enfant a subi une opération qui aurait dû me coûter 300 000 shekels, plus de 70 000 euros. Je n'ai rien payé. Voilà pourquoi je ne peux pas m'élever contre l'État israélien.
Citoyens israéliens donc, certains habitants de Rajar ne suivent pas moins avec effroi ce qui se passe en Syrie, où nombre de leurs coreligionnaires, les alaouites, ont été arrêtés, voire massacrés. Abla Junaidi, Rajar à la frontière israélo-libanaise, RFI.
Et nos reportages au Proche-Orient, ainsi que nos dernières informations à retrouver, bien évidemment, sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI à Goma, 98 FM.
9h07 à Paris, comme à Goma, capitale du Nord Kivu, où l'annonce de l'arrivée de Joseph Kabila a créé un véritable électrochoc.
Un retour qui provoque une certaine sidération. Retour annoncé vendredi soir de l'ancien président congolais dans l'est de la RDC. Joseph Kabila, chef de l'État, de 2001 à 2018, son arrivée dans cette région sous contrôle de la FCM-23 suscite prudence et interrogation. Tout le monde retient son souffle, alors que les proches de Joseph Kabila assurent qu'il prendra prochainement la parole à Kinshasa. Précision de Pascal Moulégoua.
Moi, je n'ai pas vu. J'ai entendu, évidemment, on a lu les articles. On attend de voir, on attend d'écouter.
Samedi, devant la presse à Lubumbashi, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, avance à pas prudent, car les retours annoncés de Joseph Kabila à Goma sous contrôle des rebelles de l'AFCM-23 soulèvent de nombreuses interrogations.
Le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il disait que son prédécesseur était lié à l'AFC depuis plusieurs mois. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23.
Prudence également au sein du PPRD, le parti de l'ancien président. Ferdinand Kambere, l'un des agents du secrétaire permanent, balaye tout soupçon. Il assure que Kabila n'a aucun intérêt à pactiser avec une rébellion qu'il avait lui-même chassée en 2013.
On a hâte de connaître pourquoi cette guerre a repris, alors que l'ancien président de son temps avait trouvé une solution. Pourquoi Félix continue à se cacher derrière des boucs émissaires, alors qu'il a toujours demandé de parler avec Kagame, qui est considéré comme le patron du M23. La piste royale à suivre, c'est que tous les Congolais, toute tendance, on soit associé à un dialogue national inclusif.
Une chose est sûre, Kabila compte prendre la parole dans les prochains jours à partir de Goma et son conseil diplomatique promet déjà un discours qui fera date. Pascal Moulégoua, Kinshasa, RFI.
La RDC par ailleurs actuellement en négociation avec les États-Unis pour un futur accord minier. Rien n'est signé, mais l'objectif est d'attirer de nouveaux investisseurs américains dans le secteur minier congolais et de concurrencer la Chine, premier partenaire commercial de la RDC.
L'Équateur est en alerte maximale.
Une semaine après sa réélection, Daniel Noboa est en danger. Un rapport militaire alarmant fait état de possibles attentats contre le président. Des tueurs à gages auraient été enrôlés. L'Équateur en proie aux guerres de gangs et au narcotrafic est l'adversaire de Daniel Noboa en finale de la présidentielle. La candidate de gauche, Luisa González, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Aujourd'hui, les Équatoriens craignent un durcissement du régime. À Quito, Eric Sanson.
Dans un pays encore traumatisé par l'assassinat en août 2023 du candidat présidentiel Fernando Villavicencio par des tueurs colombiens, l'activation de tous les protocoles de sécurité des forces armées, de la police et des organismes de renseignement ne rassure pas. C'est le cas du gardien de sécurité, José Gordón, qui souhaiterait cependant voir des preuves plus tangibles qu'un rapport tenu secret.
Les Équatoriens ont peur de sortir. Nous ne vivons pas tranquilles, mais je ne crois pas en cette menace contre le président. C'est du show, du théâtre, alors qu'on devrait se mobiliser contre les trafiquants de drogue qui envahissent l'Équateur.
Selon le politologue Gustavo Hisch, cette menace potentielle pourrait être utilisée pour museler une opposition déjà affaiblie par sa récente défaite électorale.
Il pourra prendre par le coup les coréistes et les opposants en général. Il pourra faire pression sur eux, les forcer à quitter l'espace public pour contrôler l'opposition.
Il y a quelques jours a circulé sur les réseaux sociaux une liste de politiciens et journalistes, souvent d'opposition, qu'il faudrait contrôler aux frontières. S'agit-il de désinformation peut-être ? Mais les mésaventures cette semaine de Diego Borja, tout récent candidat choriste à la vice-présidence, lorsqu'il a précipitamment quitté le pays vers la Colombie, ne rassurent pas de nombreux opposants. Éric Sanson, Quito, RFI.
Et on termine ce journal à Rome. Martin, Rome où les fidèles espèrent apercevoir le pape François.
Et oui, après sa convalescence d'un mois, le souverain pontife de 88 ans qui pourrait faire une apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre. S'il ne présidera pas la messe pascale, ce qui constitue un événement très rare dans l'église catholique, le pape François s'est toutefois manifesté à plusieurs reprises durant cette semaine sainte. Éric Sénanc.
L'an dernier, le pape, au dernier moment, avait annulé sa présence au traditionnel chemin de croix du Colisée à Rome en raison d'une bronchite. Cette année, ce sont toutes les festivités pascales qui se seront déroulées sans la présence physique du souverain pontife, fortement diminuée par cette pneumonie qui lui a valu 38 jours d'hospitalisation. Une situation inédite alors que les catholiques célèbrent le moment le plus important de l'année liturgique, un pape dont la présence se fait en pointillé. Mais si sa voix manque, tout comme le contact avec les fidèles, les écrits, eux, restent. Depuis le début des célébrations de la Semaine Sainte, François a délégué la lecture de ses homélies aux catéchèses et des cardinaux. Le chef de l'Église catholique, toujours convalescent dans sa résidence Sainte-Marthe, a néanmoins fait quelques entorses à son protocole de guérison, les médecins lui conseillant de voir le moins de monde possible, apparition surprise sur la place Saint-Pierre, visite dans une prison pour bénir des détenus, ou encore ce vendredi après-midi à la surprise des fidèles, quelques minutes dans la basilique, deux heures avant la veillée pascale, pour venir prier. Ce dimanche, François ne participera pas à la messe place Saint-Pierre, mais devrait néanmoins impartir sa bénédiction de Pâques après la célébration. Une fête de Pâques pas comme les autres pour l'Église, si habituée à la répétition des rites. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Et on vous souhaite joyeuse Pâques, à vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur la chaîne YouTube de RFI. Un petit coucou notamment à Gomulopo et à Evangéliste Agapit Bongo depuis Brazzaville. Et un petit coucou à vous Marion Cazeneuve pour la suite et pour la fin de RFI Matin.
Merci Martin Gazoui, c'est vrai, on aime bien lire vos commentaires sur la chaîne YouTube de RFI. Continuez et merci d'être à notre écoute. 9h12 à Paris, 7h12 en temps universel. Suivre sur RFI la chronique politique française. On parlera du Premier ministre François Bayrou qui commence déjà à plancher sur le budget débattu en septembre et les oppositions l'attendent déjà de pied ferme. Et dans le reportage culture, on se plongera dans une exposition consacrée à la lumière à Paris. Lumière déclinée sous toutes ses formes, dans des néons, des soleils artificiels. Reportage à venir à la Villette dans la capitale française. La revue de presse hebdomadaire à présent avec Théo Renaudon. À la une, Théo, comment la Chine s'est-elle préparée au grand choc commercial avec les États-Unis ?
Combien de temps durera cette guerre ? Ce n'est pas nous qui pouvons le décider. Quelle qu'en soit la durée, nous ne céderons jamais. On se battra jusqu'au triomphe.
Ce qu'on vient d'entendre, Marion, c'est Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine. On est en pleine guerre de Corée. Discours prononcé le 7 février 1953, très exactement, alors que la Chine défend ce qui deviendra la Corée du Nord face aux forces américaines alliées, elles, au sud. Un discours avec une forte résonance actuelle, cité par l'hebdomadaire français L'Express, qui nous offre cette semaine un important dossier sur comment la Chine se prépare depuis des années au choc commercial avec les États-Unis. Loin de faire allégeance à Donald Trump, le géant asiatique rend coup pour coup les taxes douanières du président américain, plus 145% depuis ce lundi.
Une réponse que la Chine risque de payer au prix fort.
Oui, mais elle est prête à le faire, Marion. D'ailleurs, ça a déjà commencé, note l'Express. Amazon annule des commandes en provenance de la Chine et des bateaux chargés de marchandises qui devaient prendre la mer restent à quai dans les ports de Shanghai. Le régime chinois est persuadé que Washington jettera l'éponge en premier et s'accroche à des signes. Par exemple, Donald Trump a déjà cédé sur les ordinateurs, smartphones et autres produits high-tech chinois. chinois. Plus aucune taxe pour entrer sur le territoire américain.
Pourtant, sur le papier, la Chine est largement désavantagée, selon l'Express.
Oui, Pékin exporte bien plus aux États-Unis qu'elle importe, mais c'est sans compter sur des leviers que Washington n'a pas. Le régime autoritaire chinois peut, rappelle l'Express, limiter les sorties de ses capitaux, et sa propagande n'aura aucun mal à faire penser aux ménages chinois. C'est la faute à Trump en cas de baisse substantielle du niveau de vie.
Pendant ce temps, cet affrontement commercial effraie l'Europe et son industrie.
L'Empire est à venir. Cette déferlante chinoise qui menace la France, titre Marianne, qui rapporte cette semaine, page 17, que les capitaines d'industrie européenne craignent la pâle perdue dans cet affrontement. L'UE, deuxième marché de consommateurs du monde, si les exportations chinoises ne vont plus aux États-Unis, elles risquent de déferler sur l'Europe. Millions d'objets à un prix moindre, risques aggravés pour des pans économiques français, dont Marianne fait la liste, et en première ligne, l'automobile, suivi de la bagagerie, puis viennent les fabricants de câbles électriques, de meubles et de robinets.
Et toujours dans l'hebdomadaire français Marianne, l'apaisement, c'est du vent entre la France et l'Algérie.
Après l'expulsion de 12 agents diplomatiques français par Alger, Marianne revient sur la désescalade espérée au départ entre les deux pays avant ce regain de tension. Illusion, le voyage de Jean-Noël Barrot en Algérie le 6 avril n'était qu'un leurre, déplore le magazine. Alger n'a en fait promis aucun geste, pas de retour de l'ambassadeur algérien en France, rappelé par son pays depuis juillet dernier, pas de date pour une libération de l'auteur franco-algérien Boualem Sansal retenu depuis 5 mois, aucune amélioration quant à l'application des mesures d'éloignement prononcées contre des Algériens, relève Marianne. Viennent donc ces expulsions d'agents diplomatiques, réaction de l'Algérie à la détention de l'un de ses agents consulaires accusé d'avoir fomenté l'enlèvement d'un opposant politique algérien sur le sol français. Pendant que l'Élysée tergiverse, souffle Marianne, les problèmes perdurent et s'aggravent.
Enfin, immigration, le conclave de la gauche organisé par le Nouvel Obs.
L'hebdomadaire français a enfermé une trentaine de personnalités de la gauche française dans ses locaux, politiques, patrons d'ONG ou membres de la société civile. Le but, parler immigration, thème très présent dans le débat public français, porté essentiellement par la vague migratoire et l'extrême droite qui dénonce une invasion migratoire. La gauche, elle, selon le Nouvel Obs, peine à exprimer sa propre vision et un contre-discours.
Et alors, qu'est-ce qui est sorti de cette réunion, Théo ?
Eh bien, 12 propositions que liste le Nouvel Obs. Parmi elles, permettre aux citoyens français de parrainer des candidats à la citoyenneté ou encore proposer systématiquement l'enseignement de la langue à l'ensemble des étrangers qui arrivent sur le territoire pour la première fois. Des ovnis dans le débat public français, il faut bien le dire, marqué par une poussée des conservatismes.
La revue de presse des hebdomadaires signée Théo Renaudon.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
9h18 à Paris, à la une de l'actualité. Ce dimanche 20 avril, la trêve pascale, aussitôt annoncée par la Russie, est presque aussitôt violée, selon Kiev, qui déplore des assauts et des tirs d'artillerie russes. Ce cessez-le-feu est censé s'achever la nuit prochaine. Les négociations avancent sur le nucléaire iranien. Déclaration hier de Washington et de Téhéran, brouillées depuis des années. C'était lors de pourparlers hier à Rome. Donc, une nouvelle rencontre est fixée la semaine prochaine à Oman, médiateur dans ce dossier. Israël qui a réagi aussi à cette rencontre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rappelé sa volonté d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. À la télévision hier, il a aussi déclaré qu'il comptait poursuivre sa guerre à Gaza. Des milliers d'Américains ont manifesté hier contre l'administration Trump, inquiets notamment de la politique anti-immigration de la Maison-Blanche, avec des défilés dans de nombreuses villes comme San Francisco, Washington ou encore à Austin, au Texas. Et puis les catholiques du monde entier ont les yeux rivés vers le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican en ce dimanche de Pâques. Ils espèrent apercevoir le pape François qui se fait rare en convalescence, affaibli il y a quelques semaines par une double pneumonie.
RFI à Paris, 89 FM.
La chronique politique avec vous, Charlotte Urien-Thomaca. Bonjour Charlotte.
Bonjour Marion.
Prendre l'opinion à témoin, c'était l'objectif du Premier ministre en réunissant mardi le nouveau comité d'alerte sur le budget. Une appellation censée incarner l'urgence du moment et la hauteur vertigineuse du mur de la dette, plus de 3300 milliards d'euros. Le Premier ministre François Bayrou tente donc d'insuffler cette petite musique catastrophiste en amont du budget qui arrivera à la rentrée, Charlotte.
Oui, un lexique alarmiste, montagne de difficultés, situation intenable, une chose est sûre, le Premier ministre a voulu capter l'attention d'une opinion publique à son égard. Je le cite, « Rien ne serait possible sans le soutien des Français et leur soutien ne viendra que de leur pleine information », explique-t-il. Prendre l'opinion publique à témoin permettra-t-il de trouver un consensus politique pour faire voter le budget ? Rien n'est moins sûr. Si le Premier ministre a rappelé un contexte que les Français connaissent déjà, il n'a proposé aucun diagnostic. Épreuve qu'un accord politique sur ce futur budget est encore bien lointain, les oppositions sont restées campées sur leur position.
Et pour plancher sur le budget, François Bayrou et son gouvernement veulent mettre en œuvre une autre méthode, celle du budget base zéro, où toutes les dépenses sont annulées, concept utilisé aux États-Unis notamment.
Oui, après le ministre de l'économie Éric Lombard qui a prévenu qu'il fallait faire un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros, tous les moyens sont bons pour trouver des solutions. Le budget base zéro, c'est donc une méthode qui diffère des approches budgétaires traditionnelles. Chaque dépense doit être justifiée. Cette fois-ci, pas d'élaboration du projet de loi de finances en partant de celui de l'année précédente. On part d'une feuille blanche pour chaque ministère. Utilisée notamment aux États-Unis par Elon Musk, les proches du Premier ministre expliquent que dans le cas présent, cela n'a rien à voir.
D'autant plus que depuis quelques jours, Charlotte, les menaces de censure venues des oppositions se font de plus en plus pressantes.
Oui, comme chaque année, les premières discussions sur le budget réveillent les envies de censure. L'épée de Damoclès pourrait donc rester accrochée plusieurs mois au-dessus de la tête du Premier ministre. Car le RN, les Insoumis ainsi que les socialistes ont déclaré cette semaine être prêts à voter une motion de censure sur le budget cet automne. Pas question pour eux de demander aux Français de se serrer la ceinture. À noter néanmoins qu'étant donné leurs actualités respectives, la censure peut s'éloigner. Congrès du PS pour désigner le successeur d'Olivier Faure, duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau chez LR, condamnation de Marine Le Pen pour laquelle désormais toute censure du gouvernement fera automatiquement peser un risque sur la chef de file des députés RN. Seule la France Insoumise pourrait mettre rapidement sa menace à exécution, mais sans aucun danger pour François Bayrou.
La chronique politique signée Charlotte Turien-Tomaka.
RFI Matin.
Chemin d'écriture avec Tirthan Karchanda. Aujourd'hui, une ode à la lecture, aux pages qui se tournent, au monde qu'elle laisse entrevoir avec ce manifeste pour la lecture publié par les éditions mauriciennes L'Atelier des Nomades. Dans ce livre, 16 auteurs francophones d'Afrique et du continent indien écrivent témoignages, portraits et poèmes sur le sujet. Tirthan Karchanda nous le présente.
Il s'appelle Ananda Devi, Véronique Tadjo, Blaise Ndala, Jennifer Richard, Gaël Octavia, Nassouf Djelani, pour ne citer que les plus connus. Romancier, poète, nouvelliste incontournable de l'Afrique et de l'océan Indien, ils avaient répondu oui à l'invitation de Corinne Fleury, fondatrice de l'édition L'Atelier des Nomades, à participer à un livre collectif pour raconter leurs expériences de lecture et de l'écriture. Le manifeste pour la lecture est né de cette aventure. Sur la genèse du projet, Corinne Fleury.
Le projet était réellement d'offrir des témoignages et des récits d'auteurs de la francophonie, de leur laisser un espace pour raconter comment est-ce qu'ils sont venus au livre, à la lecture. En fait, je suis aussi organisatrice d'un festival du livre jeunesse qui se déroule tous les 2 ans à Maurice. Et dans ce cadre-là, je rencontre de nombreux lecteurs, de nombreux enseignants, médiateurs du livre. Et à chaque fois, en tout cas à Maurice, il y a un peu ce sentiment parfois que la lecture n'est peut-être pas suffisamment démocratisée. C'est vraiment partie de ce constat-là.
Les livres sont des compagnons de notre voyage de vie, proclament les auteurs réunis dans ce volume. L'ouvrage s'ouvre sur un témoignage poignant par la mauricienne Ananda Devi. Il s'agit d'un récit de 5 à 6 pages où Devi revient sur ses toutes premières lectures dans les aventures de Pinocchio. Ce livre était devenu le livre de chevet de la petite fille de 3 ans qu'elle était alors. « Je l'aimais d'amour », écrit l'auteur, rappelant qu'elles ne sont séparées jamais. Alors, quand il faudra s'en séparer, ce sera le drame. À 60 ans passés, la mauricienne se souvient encore de la déchirure comme si c'était hier.
Un grand ciel violet s'étire au-dessus d'un bateau. La mer est houleuse, toute noire. Sur le quai, je tiens la main de ma mère. D'une voix grêle, j'appelle encore. Ma voix est vite emportée par le vent. Et là-bas, un petit garçon s'éloigne avec un livre. Mon livre. Il va embarquer sur ce bateau. Le bateau quitte le quai pour la Réunion. La nuit les emporte. Une nuit bleue, traversée de nuages. Je rentre à la maison, inconsolable.
Le manifeste comporte en tout 16 textes qui se signalent à l'attention par leur variété de sensibilité et de genre. En prose, en poésie, en prose poétique, ils illustrent avec beaucoup de talent et d'originalité la thèse centrale du livre. La lecture est un antidote contre l'ennui et la solitude. Difficile de finir cette chronique sans évoquer les pages inoubliables que consacre l'écrivain franco-maoré Nassouf Djellani à l'importance du livre et de la lecture dans sa vie. Son texte se présente sous forme de lettres adressées, je cite, à l'élève au fond de la classe qui avait des mots plein le ventre et qui a du mal à les sortir sans que son élan soit empêché par une espèce de timidité. Ce texte est bien sûr un autoportrait. Nassouf Djellani retrace son propre parcours au milieu des contingences de la dure condition coloniale de son île natale mahoraise, avec pour seuls alliés les livres et leurs mots constitutifs, qui ont représenté, comme l'écrit l'auteur, des êtres fondamentaux dans mes choix futurs. Nassouf Djellani.
Cet élève du fond de la classe, il y en a tellement, et c'est un peu en fraternité avec lui ou avec elle que j'ai écrit cette petite nouvelle pour lui dire tu n'es pas seul en fait. Il suffit que tu ouvres un livre, que tu lises une phrase, tu n'es pas tout seul parce que il y a des êtres de papier, il y a des personnages en fait qui peuvent être des frères et qui peuvent te parler de toi, de ta condition et on se sent moins seul.
Le monde serait indéchiffrable sans les livres, car les livres savent ce que nous ne savons pas encore. Telle est sans doute la leçon de ce manifeste pour la lecture.
Et ce manifeste pour la lecture est publié aux éditions Atelier des Nomades. Et c'était Tirtan Karchanda pour Chemin d'écriture. La lumière au bout du tunnel, à la Villette, des néons sur un couloir de 19 mètres, des anneaux éclairés, de faux soleils en fusion, l'exposition Into the Lights propose de marcher à travers des installations consacrées à la lumière, à toutes ses formes, toutes les intensités qu'elle peut prendre. Nour Marzougui s'est promenée dans les allées de l'Expo à Paris.
Imaginez-vous vivre dans un monde sans lumière. L'idée s'apparente davantage à un cauchemar qu'à un rêve, n'est-ce pas? Et pourtant, la lumière est tellement omniprésente dans notre quotidien qu'on finit par oublier à quel point elle est essentielle. L'expérience immersive Into the Light nous rappelle que la lumière est donc devenue un besoin presque primaire. Qu'elle vienne du soleil, de la lune ou qu'elle soit artificielle, la lumière a toujours été une partie intégrante de notre histoire, car la lumière nous rassemble. Mathieu Debailly, commissaire de l'exposition.
La lumière, si vous regardez dans n'importe quel pays, des lieux où le soleil se couche ou le soleil se lève, vous trouverez des centaines ou des milliers de personnes qui tous les soirs regarderont ce spectacle-là. Et puis, elle aussi révèle que la lumière, elle fédère et elle contribue à vivre ensemble de manière positive et festive, puisque le dernier point final de l'exposition, c'est une place de village ou une fête foraine réinventée avec ces manèges de lumière qu'on a programmés. Et je trouve que cette lumière-là, elle fait du bien dans un monde qui n'est pas toujours très heureux.
Ce voyage lumineux est découpé en 5 actes et déployé sur 3000 m² pour un parcours d'environ 1h30. Parfois debout, assis, puis allongé à s'émerveiller devant les jeux de lumière, Into the Light est la preuve qu'une exposition immersive peut réellement l'être. Une promesse qui est souvent faite, mais rarement tenue, Mathieu Debailly explique comment ce projet relève le défi.
Il y a 10 ans est née cette envie de réunir une génération de créateurs à Paris, ville des Lumières, pour offrir au plus grand nombre, en tout cas un spectacle total, où la lumière serait le sujet principal. C'est un sujet qui peut paraître extrêmement banal, mais qui ne l'est pas du tout. On a vraiment créé un film narratif qui s'arrête sur ces lumières universelles qui ont inspiré des mondes antiques, ces lumières du quotidien. Et je pense qu'en venant à la Villette, on est sidéré, parce que les systèmes qu'on propose, ils présentent des scénographies lumineuses qui sont souvent uniques au monde et qui permettent d'amener le sourire, qui permettent de remplir le cerveau d'images et de rêves qui font du bien.
Au fil des salles, on découvre une quinzaine de mises en scène signées par 10 artistes européens accompagnés de créations sonores ou d'effets sensoriels. Des œuvres interactives dans lesquelles vous vous sentirez hypnotisé, dérouté ou totalement apaisé. Mais une chose est sûre, après Into the Light, vous ne verrez sûrement plus la lumière de la même façon.
Et cette exposition Into the Light est à voir à la Villette jusqu'au 31 août à la Villette à Paris. C'était le reportage culture de Nour Marzougui. Dans 30 secondes maintenant sur RFI, le retour de l'actualité africaine.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la Radio du Monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio.